On voit un témoignage qui se trouve dans la parole de Dieu, et c'est le psaume 119. Nous n'allons pas le lire en entier ce matin, car c'est le plus long des psaumes, mais nous allons le parcourir, et je vais lire le début, psaume numéro 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Ce psaume est extraordinaire. C'est un témoignage rendu à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux lois de Dieu. Et il est très long parce qu'il est constitué de 22 chapitres. 22 parties de 8 versets. Ce qui fait 8 fois 22, le nombre total 176. Pourquoi y a-t-il 22 chapitres dans ce psaume ? Parce que l'alphabet hébreu a en effet 22 lettres. On en a combien en alphabet français ? 26. Oh là là, il faut réviser là. 26 lettres dans l'alphabet occidental français, 22 dans l'alphabet hébraïque. Et donc, chaque lettre de l'alphabet est présente dans ce psaume. Les 8 premiers versets commencent par la lettre A, Aleph en hébreu. Les 8 versets suivants commencent par la lettre B, Bet, etc. Et jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc il y a 8 versets commençant par la lettre de l'alphabet. Pourquoi l'alphabet, avoir choisi l'alphabet ? Il y a deux raisons principales. Première raison, parce que ces psaumes étaient mémorisés. Et il y a des gens qui les mémorisaient tout entier, vous vous rendez compte, les 176 versets. Et pour faciliter la tâche, ils avaient cette méthode, justement, enfin, le compositeur, l'auteur du psaume, l'avait composé avec les 22 lettres de l'alphabet. C'était un peu plus facile à retenir, franchement, je ne sais pas si ce serait plus facile pour moi de mémoriser tout un psaume. Mais la deuxième raison, la principale, c'est que ça signifie que la loi de Dieu, la parole de Dieu et Dieu remplit tout, l'alphabet complet. Comment est appelé Jésus-Christ dans l'Apocalypse à un certain moment ? Il est l'alpha et l'oméga. C'est quoi alpha et oméga ? C'est la première et dernière lettre de l'alphabet grec. C'est de A à Z. Jésus est le A à Z. Dieu est mon A à Z, Dieu est mon alphabet, ça veut dire qu'il remplit tout. Tout ce qui est dans l'univers, dans l'existence, dans ma vie, est rempli par Dieu. Dieu est à l'origine de tout. Il est à l'origine de la création, mais il aussi à l'origine de mon salut. Dieu est la fin de tout. Toute la fin sera conduite par Dieu, jugée par Dieu et purifiée par Dieu. Et la fin de ma vie éternelle, a été achetée, rachetée par le Seigneur Jésus. De A à Z, ma vie est entre les mains de Dieu. Et c'est un peu ce que dit ce psaume aussi. Et le fait qu'il y ait 8 à chaque fois, dans la Bible, le nombre 8, c'est le nombre de la plénitude en plus. Donc non seulement il y a tout l'alphabet, mais en plus il y a 8 à chaque fois, la plénitude. Souvenez-vous, combien y avait-il de personnes dans l'arche de Noé qui représentait toute l'humanité ? 8. Combien de phrases Jésus a prononcées dans le sermon sur la montagne, les fameuses béatitudes? Vous ne savez pas, moi non plus, mais en fait, on devine que c'est 8. Le 8 dans la Bible symbolise la plénitude, la complétude. Le 7, c'est la perfection de Dieu. Le 6, c'est l'imperfection humaine, et même le 666, c'est le diable, hein, la trinité diabolique. Mais le 8, c'est la plénitude. Tout est complet avec Dieu, et ce psaume en est la démonstration. Matthew Henry, qui était un commentateur de la Bible anglais, avait enseigné ses enfants de méditer un verset de ce psaume chaque jour de l'année. Ce qui fait qu'en un an, ils avaient médité deux fois ce psaume. Et c'était une bonne chose de réfléchir sur chaque parole. Ce qui est extraordinaire encore dans ce psaume, c'est pas fini, c'est que quasiment dans chaque verset, dans chacun des 176 versets, il parle de la Bible, il parle de la loi de Dieu. À chaque fois, il donne un synonyme, vous avez remarqué, commandement, statut, sentence, précepte, ordonnance. D'après vous, combien il y a de mots synonymes qu'il emploie? 8. On est encore dans le 8. Et la plénitude. Voilà. Et chacun de ces mots nous parle de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas juste le livre papier de la Bible. Hein. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. C'est sa volonté, c'est sa loi. C'est ce qui nous, son message pour nous. Et c'est vrai que son message a été inspiré, transmis à des prophètes qui l'ont transmis au peuple de Dieu. Et ce message a été préservé dans ce livre extraordinaire qui est la Bible. Alors, dans le psaume 119, l'auteur répand son âme au sujet de la Bible. Ce qui est frappant dans ce psaume, c'est combien il aime la loi de Dieu. Il dit « J'aime ta loi, je fais mes délices de tes statuts ». Et c'est ça qui frappe au premier abord quand on lit ce psaume. Normalement, la loi, les préceptes, les statuts, hein, c'est pas drôle. C'est fastidieux, surtout chez les Juifs à cette époque-là où on étudiait la loi commandement par commandement et on essayait de dire comment il faut l'appliquer dans la vie quotidienne. Il y a beaucoup de détails. Si vous lisez le Lévitique hein, ou l'Exode, le nombre de détails que vous avez. Est-ce que le Lévitique est votre livre favori de la Bible? Certains peut-être, hein, c'est un livre magnifique sur la sainteté de Dieu, mais il y a quand même beaucoup de préceptes. Eh bien, l'auteur de ce psaume, lui, il se régale dans les préceptes. Il dit, je fais mes délices, je me régale. Mais on se dit, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Comment fait-il? Eh bien, c'est qu'il ne lit pas simplement la Bible, il ne regarde pas la loi comme quelque chose d'extérieur, mais il le vit. Il l'aime parce qu'il veut le vivre, il le médite. Hein, il dit, je médite tes ordonnances. Il prend la parole de Dieu et il y réfléchit, parce qu'il sait que ce qui vient de Dieu est profond, ce qui vient de Dieu est nourrissant pour notre âme. Et là, eh bien, il médite sur ces choses tout le temps, et il est tout le temps en train de penser à Dieu, aux choses éternelles. Alors, on pourrait dire, mais est-ce qu'il n'avait pas un travail, cet homme séculier? Peut-être, je ne sais pas, ou peut-être c'était un David, le roi David. Les rois avaient énormément de travail et de responsabilités, mais il prenait tout le temps ce temps, et il avait son esprit tout le temps avec Dieu. Est-ce que j'aime la Bible comme ça? Est-ce que la parole de Dieu, c'est ma nourriture? C'est mon délice, mon petit gâteau, mon cookie que j'aime méditer, mâchouiller en disant « Seigneur, ta parole est tellement extraordinaire ». Quand nous apprenons un verset par cœur le dimanche matin, c'est aussi dans ce but, c'est de pouvoir avoir la Bible dans notre tête mais aussi dans notre cœur. Si ça reste dans la tête, ce n'est pas suffisant, il faut que ça descende dans le cœur. Et quand la Bible est dans le cœur, quand on fait face à une situation difficile dans la vie quotidienne, quand on est face à quelqu'un de pénible, quand on est dans une situation de détresse, on a une mauvaise nouvelle, ou on est seul face à quelque chose de compliqué, la parole de Dieu peut venir. Et là, elle vient dans la vie, Elle n'est pas juste dans la tête, elle n'est pas quelque chose d'intellectuel. On peut prendre la Bible de façon intellectuelle. Hein. Il y a des gens qui peuvent lire la Bible en trois langues anciennes et ne pas la vivre du tout. Le Seigneur nous appelle à vivre sa parole. Et c'est ce que faisait cet auteur ici. Il aimait la Bible. Ça me fait penser à ce prédicateur canadien qu'on a connu il y a bien longtemps, hein, qui répétait dans ses messages « J'aime la Bible, j'aime la Bible ». Et il le disait pour nous encourager, mais aussi parce que c'était vrai, combien il aimait la Bible. Je pense aussi à Raph Chalice, un serviteur de Dieu français, qui a écrit plusieurs ouvrages et que j'ai entendu sur cassette. Je n'ai jamais pu le voir avant sa mort. J'étais tout jeune chrétien et il prenait la Bible et puis il développait et il expliquait. Et on sentait que ça venait d'un amour pour la Bible, pour Dieu, le Dieu de la Bible. Et c'est la deuxième chose là, hein. Il aime Dieu. Pourquoi il aime la Bible? Parce qu'elle vient de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Et il veut plaire à Dieu. C'est ça qu'on remarque dans ce psaume. Il est tout le temps en train de dire, Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi, je veux rester près de toi, je veux être dans tes lois, non, je veux être fidèle à ce que tu m'as dit, je veux rester tout près de toi, ta parole, c'est la lumière sur mon sentier. C'est dans le psaume 119 ce verset. Hein. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et le Seigneur veut être notre guide en permanence. Et le psalmiste, là, il s'accroche au Seigneur de tout cœur. Pourquoi est-ce qu'il s'accroche au Seigneur? C'est parce que la vie se charge de nous éloigner de Dieu. Il y a des tentations, il y a des soucis, il y a des péchés, il y a des circonstances qui peuvent nous amener à, petit à petit, graduellement, nous éloigner du Seigneur, nous éloigner de la Bible. Vous connaissez le dicton, peut-être ? Le péché vous éloignera de la Bible, mais la Bible vous éloignera du péché. Et il y a ce combat en permanence pour le croyant. Et le psalmiste, là, il a développé 176 versets. Il fallait prendre le temps, il fallait avoir de l'imagination, bien sûr, il y avait l'inspiration du Saint-Esprit, hein. Mais il fallait aussi son cœur, là. On voit qu'il aimait son cœur. Et il n'y a pas deux versets pareils, hein, dans ces 176 versets. Il arrive à voir toutes les facettes de la parole de Dieu, toutes les facettes qu'il peut penser sur la personne du Seigneur et tout ce qu'il peut tirer de la Bible dans sa vie. Il dit « Je suis plus sage que tous mes maîtres ». Ça, c'est quelque chose de merveilleux. La Bible est un livre, au-dessus des autres, un livre qui change notre vie, un livre à vivre. Mais c'est le livre de Dieu qui nous permet de rester près de lui. J'aime particulièrement les premiers versets. Et le verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, heureux ceux qui gardent ses préceptes. » Il ne parlera plus du bonheur après dans la suite de ce psaume. Ce sont les deux premiers versets où il parle d'être heureux. Et je pense que c'est quand même le thème de ce psaume. Comment être heureux en tant que croyant? Tout le monde est à la poursuite du bonheur. Ah, je veux être heureux. Alors, pour être heureux, il faut que je sois, que j'accomplisse tous mes désirs, tous mes projets. Il faut que je sois marié avec des enfants ou au contraire, je sois célibataire sans enfants. Et il faut que je sois riche, il faut que je sois beau, il faut que je sois ceci. On a plein d'idées sur le bonheur. Mais la parole de Dieu nous dit ce qu'est vraiment la source du bonheur. Ici, il dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie ». Qu'est-ce que c'est les voies? Les voies, c'est notre façon d'agir. Hein. Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis incorruptible? Est-ce que je ne laisse pas rentrer le péché? Vous savez, comme les produits imperméabilisants qui ne laissent pas rentrer l'eau, est-ce que je suis imperméable? L'eau ne rentre pas, le péché ne rentre pas, je ne le laisse pas arriver à ma conscience, à ma vie. Il vient me tenter, bien sûr, mais je le repousse, je reste intègre. Ça, c'est comme ça qu'on est heureux quand on est intègre. Pourquoi? Parce que quand on est intègre, on a une conscience pure. On sait qu'on est en règle avec le Seigneur. On sait qu'on est avec Dieu, qu'on marche avec Dieu. Ce qui pèse dans la vie des chrétiens, c'est leur culpabilité. Beaucoup de chrétiens marchent avec un poids de culpabilité parce qu'ils pensent ou ils ne marchent pas correctement avec Dieu. Alors ils disent, Ah, oh, je ne marche pas avec Dieu correctement, donc de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de prier parce que je suis pas. Qui suis-je pour prier? Ça ne sert pas à grand-chose de parler de ma foi parce que, vu ma vie, vu mon comportement. Et quand on n'est pas intègre, ben, on ne va pas très loin dans la vie chrétienne. Dieu nous a sauvés pour qu'on soit pur, qu'on soit intègre, pour qu'on soit délivré du péché. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qu'est-ce qui doit nous guider dans la vie? C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas la culture française ou la culture de notre pays. Ce n'est pas forcément même ce que mes parents des fois m'ont appris ou même ce que mes profs m'ont appris. Je dois pouvoir tout trier et dire qu'est-ce qui est vraiment la volonté de Dieu. Bien sûr, ce que je reçois en héritage de ma famille, de mon pays, de mon école, il y a des très bonnes choses. Mais aussi des mauvaises choses. C'est pas parce que dans ma culture on fait comme ça que c'est la volonté de Dieu. Hein? Dans ma culture, on prend la femme du voisin. Vous allez chez les Esquimaux, par exemple, dans la culture des Inuits, pour les appeler avec leur vrai nom, eh bien, les femmes appartiennent à tout le monde dans le village. Je sais pas si vous appréciez ce genre de choses. Est-ce que si je suis un Inuit et je me convertis, est-ce que je continue à prêter ma femme à tout le monde ou est-ce que si je suis une femme, je me donne à tous ceux qui viennent me chercher? Non. Il y a un moment où on dit, non, il y a la parole de Dieu, je veux suivre, je veux marcher selon la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ces préceptes et à l'idée de garder, d'être tout le temps sur ses gardes. Et c'est ce qu'on remarque dans ce psaume. Il écrit tous ces versets parce qu'il ne veut pas chuter. Il ne veut pas déplaire à son Dieu, à son Sauveur. Il veut rester fidèle. Alors, il médite la parole de Dieu. Et les hommes ont confondu la méditation avec la récitation. Il y a dans certaines religions la récitation de prières. Dans l'hindouisme, vous avez les mantras. Dans l'islam, vous avez le petit chapelet. Avec vous répétez hein, par cœur les prières en arabe, qui a donné d'ailleurs, qui a été repris par l'Église catholique, hein, avec le chapelet catholique, les répétitions, Je vous salue Marie, Notre Père, etc. Et les croyantes se disent, si je répète tout le temps ces prières ou ces mantras, je ne pécherai pas, parce que mon esprit sera concentré sur des choses pures. Mais ce n'est pas ça que Dieu a demandé, parce que répéter quelque chose sans arrêt ne rend pas plus pur. C'est vrai, le temps que vous répétez, peut-être vous ne pensez pas à autre chose, mais il ne se passe pas grand-chose. Ce qui rend pur, c'est de méditer, de garder. Méditer, garder, c'est, comme je disais, mâcher la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je lisais un article intéressant sur l'interprétation de la Bible. Dans notre Église, nous aimons bien avoir une correcte interprétation des Écritures. Pour nous, c'est important. La Bible ne s'interprète pas n'importe comment. Il y a des lois de l'interprétation qu'on appelle l'herméneutique et on doit garder le contexte, etc. On doit veiller sur les mots de la langue originale. Tout ça, c'est très important. Mais l'article disait, parfois c'est poussé tellement loin que lorsqu'un pécheur devient chrétien, se convertit, il dit, mais moi je ne peux pas interpréter la Bible, je ne peux même pas la comprendre parce que c'est pour les super docteurs en théologie qui connaissent le grec, l'hébreu, le contexte, l'archicontexte, et ils savent tout sur l'histoire du Moyen-Orient 500 ans avant Jésus-Christ, mais moi, je ne connais pas tout ça, je ne vais pas pouvoir interpréter la Bible. Et du coup, on se repose sur des docteurs, sur des savants de la Bible. Et l'article disait, c'est dommage, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu pour tout le monde. Et tout chrétien doit pouvoir puiser des vérités dedans, doit pouvoir être touché par les promesses de Dieu. Il y a des pays où les gens savent tout juste lire et écrire, mais ils connaissent bien la parole de Dieu et ils la vivent. On n'a pas besoin d'être docteur en théologie. Bien sûr, quand on a un doctorat, ou je ne sais pas, quand on connaît les langues originales, on va pouvoir résoudre certains conflits, petits problèmes d'interprétation, plus que d'autres. Mais dans la vie quotidienne, ce n'est pas d'être docteur qui fait quelque chose. Quand nous allons comparaître devant le Seigneur à la fin de notre existence de croyant, il ne va pas dire, dis donc, est-ce que tu connais le grec et l'hébreu? Est-ce que tu peux citer trois commentateurs de l'épître aux Romains ou donner la meilleure interprétation de Romains 10, 22? Non. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est ça la question. Est-ce que tu as obéi à la loi de Dieu? Est-ce que tu as été intègre dans tes voies? Est-ce que tu as été fidèle? C'est ça que Dieu va demander. La parole de Dieu, c'est pour nous tous et nous devons tous y puiser des ressources. Alors, il ne faut pas aller dans l'autre sens, dire ben, « je ne vais plus aller à l'église, ça ne sert à rien d'écouter les messages parce que Dieu veut que j'étudie tout seul. » Non. Dans les messages, justement, les pasteurs prient, préparent, étudient pour qu'on puisse être encouragé dans la parole de Dieu et dans sa vie chrétienne. On est là pour vous exhorter, pour vous encourager. Mais ça n'empêche pas que chacun, et moi compris, nous compris, on doit tous les jours être dans la parole, la savourer, la méditer, en faire nos délices. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, dit le verset 2, qui le cherchent de tout leur cœur. C'est ce qui ressort de ce psaume, c'est quelqu'un qui est de tout son cœur avec Dieu. Nous sommes une génération qui n'est pas de tout son cœur, qui n'est pas prête à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Nous sommes une génération un peu en retrait. Je vais voir pas trop d'engagement, de moins en moins de personnes qui se marient, par exemple, parce qu'on dit, on vit ensemble, si ça se passe bien, tant mieux, mais le jour où ça se passe mal, moi, je veux pouvoir partir, être tranquille. Et cette idée d'être engagé, d'être entier, est en train de disparaître. Pourtant, c'est ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur qui trouvent le bonheur. Ce sont ceux-là qui ont une vie qui bénit les autres aussi. Quand on est entier, il se passe des choses. J'étais frappé, et vous allez me dire quel drôle d'exemple, mais vous allez vous comprendre après, par il y a plusieurs documentaires sur Hitler, comment il est arrivé au pouvoir. Et une chose qui m'a frappé une dernière fois, c'est qu'Hitler est arrivé au pouvoir parce qu'il était entier. Il était à fond dans ce qu'il faisait. Il était prêt à tout. Il a perdu et il s'est relevé, il est reparti, on s'est moqué de lui, il a recommencé jusqu'à ce qu'il gagne. Bien sûr, il a utilisé le mensonge, la violence à un certain moment, hein, la propagande, la coercition, toutes ces choses mauvaises, hein, et diaboliques. C'était vraiment quelqu'un inspiré par le diable. Mais ce qui m'a frappé, c'est que s'il a réussi à se hisser au pouvoir avec tous les discours qu'il pouvait proférer, franchement, quand vous entendez ces discours, vous avez plutôt envie de fuir, hein. Je ne veux pas cet homme-là comme président ou comme premier ministre. Et pourtant, les gens l'acclamaient, étaient fascinés. Les jeunes, les vieux, tous étaient fascinés. Même il y avait des chrétiens, des catholiques et des protestants qui ont dit « Nous espérons que Hitler va amener, est une sorte de sauveur pour l'Allemagne et va amener la délivrance de notre pays qui était dans une situation économique et morale assez basse. » Ils ont été fascinés. Pourquoi ? Parce qu'il était entier. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit entier pour sa parole, pour la sainteté. Être entier, ça ne veut pas dire être fanatique, être bizarre, je ne sais pas, quitter son job du jour au lendemain, tout quitter, aller dans un pays inconnu. Non, être entier, c'est s'en remettre totalement à Dieu, en toute chose. Seigneur, voilà, je te remets ma vie. Tous les domaines de ma vie, il y a ma vie familiale, il y a ma vie de travail, il y a ma vie personnelle, intime, il y a mes pensées, il y a mes hobbies, mes plaisirs, mes projets. Seigneur, tout ça, un par un, je te les remets. Fais le tri, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et s'il y a des choses que tu veux, montre-les-moi. Alors on a toujours peur de faire cette prière, parce que ce qu'on craint, c'est que Dieu nous demande une chose qu'on n'a pas voulu ou pas prévue. Nous, on a nos projets, on a nos plans. Voilà, Seigneur, avec toi, je vais faire ça. Quand j'étais nouveau chrétien, je disais, après, à la fin de mes études, je vais rentrer dans une entreprise, je vais être dans la gestion, je vais avoir un bon salaire et je vais donner de l'argent à l'église dans ma dîme et puis je vais peut-être être diacre, ça va être super, voilà, je vais être un bon chrétien. Et puis un jour Dieu m'a dit, veux-tu me servir à plein temps? Aïe, 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 ça m'a pas plu au départ, ça m'a pas plu. Moi, j'avais mes projets d'être un bon chrétien qui gagne bien sa vie. Et là, Dieu me dit, tu vas être à plein temps avec l'opprobre un peu du serviteur de Dieu en France, hein, et les difficultés parfois matérielles. Mais le Seigneur a été tellement bon et fidèle, je n'ai jamais regretté une seconde d'avoir dit oui au Seigneur dans ce domaine. Mais c'est avec anticipation, oh là là, qu'est-ce que tu vas me demander? Seigneur, surtout ne m'appelle pas en Chine. Je ne peux pas supporter la Chine. Ne m'appelle pas. Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Seigneur, je te donne ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Ma vie est courte. On n'a pas trois vies, on n'en a qu'une sur la terre. Il faut bien l'utiliser à fond pour le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Pour certains, ça va être servir Dieu à plein temps. Ce sera la volonté, l'appel de Dieu. Mais pour d'autres, ce n'est pas ça forcément. On n'est pas tous appelés à plein temps. Pour d'autres, ça va être servir Dieu autrement, dans sa famille, en ayant des enfants, dans l'église, en étant engagé dans son église, en évangélisant ses amis, ses proches, ses collègues, en aidant les missions ou les missionnaires, en étant hospitalier, en recevant des gens chez soi. Il y a toutes sortes de façons de servir Dieu, mais il faut le faire d'un cœur entier. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec quelqu'un qui est là à moitié, qui dit « Oh là là, attends, me demande pas trop quand même, hein ». Qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un comme ça? Dieu dit, écoute, j'aimerais... Ah non, attends, je t'arrête tout de suite, Seigneur. Tu aimerais, mais moi, j'ai déjà mon horaire, là, mon emploi du temps, là. Hein. Alors, on va voir si j'ai une case pour toi. Bien sûr, on ne le dit jamais comme ça, mais c'est comme ça que ça finit. On laisse une case à Dieu dans son emploi du temps. Être entier, c'est remettre son agenda à Dieu et dire, maintenant, tu le remplis pour moi. C'est une autre histoire. Et c'est ce que ce psalmiste vivait. Il dit, je suis à fond pour le Seigneur. J'observe tes préceptes. Et puis, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur, ou la jeune fille, bien sûr, son sentier? Comment être pur quand on est jeune? C'est plus difficile parce que quand on est jeune, d'abord, il y a les hormones qui sont là, n'est-ce pas? Dans l'adolescence, il y a cette difficulté de devenir adulte. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Quand on est dedans, c'est très dur. Quand on est adulte, après, on dit « Oh, écoute, c'est un mauvais moment à passer. » Mais quand on est dedans, c'est vraiment une souffrance même. Hein. On n'est plus enfant, on n'est pas adulte. On n'a pas encore les capacités même mentales d'un adulte. Et on nous demande des choses un peu d'adulte. Et c'est difficile. Et il y a tellement de tentations quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a envie de faire 50 000 choses. Mais il y a aussi dedans, il y a s'enivrer, hein, avoir des relations sexuelles, avant le mariage, bien sûr. Tout ce genre de choses, c'est tentant. Et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Quel est le secret de la pureté? Eh bien, il dit, en se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ailleurs, il dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Il y a quelque part chez le croyant un choix entre le péché et le Seigneur. Seigneur, je suis jeune, j'ai plein de vie, d'hormones, de tentations, mais je choisis la vérité, je choisis de marcher selon ta parole, parce que ta parole est bonne et bénéfique. En suivant ta parole, je serai heureux, je serai pur. Et pur ne veut pas dire qu'il ne fait plus rien de sa vie, qu'il reste enfermé dans sa chambre. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. On peut être pur en parcourant le monde, hein, en faisant plein d'activités sportives où j'en passe. Mais il faut rester attaché au Seigneur et à sa parole. Et c'est le thème de ce psaume que je vous encourage à lire cette semaine. J'aimerais regarder les derniers versets. On a vu le début, on voit la fin. À partir du verset 170, « Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. » Il prie avec intensité, même dans sa prière, il est entier. Ils ne prient pas du bout des lèvres en disant « Ah oh, Seigneur, c'est dur la vie, ah si tu pouvais. » Non, délivre-moi, que ma supplication arrive jusqu'à toi, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. C'est quelqu'un qui loue le Seigneur, qui remercie Dieu en toutes choses. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Non seulement il veut dire la parole, mais il veut la chanter. Et j'aime bien quand les cantiques prennent un verset biblique, hein, et qu'on chante la Bible. Ça, c'est une bénédiction. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Il répète encore cette idée de « j'ai choisi ». Il y a des choix importants à faire dans la vie. Qui je vais épouser, qui je vais suivre pour l'éternité. Il ne faut pas rater ce genre de choix. Il faut le faire avec le Seigneur. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux épouser la personne qui est la meilleure pour moi et pour qui je suis la meilleure, selon ta volonté. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Ta loi fait mes délices. Loi et délices, ce ne sont pas des mots qui vont bien ensemble d'habitude. Et pourtant, il fait ses délices parce qu'il aime Dieu. Et puis, que mon âme vive et qu'elle te loue, que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Et là, on voit l'humilité. Il dit, je suis errant comme une brebis sans toi. Je m'égare comme une brebis. Sans toi, Seigneur. Et là, on a besoin d'apprendre nous aussi l'humilité. On pense qu'on sait mieux que Dieu ce qu'il faut faire. Non, 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 non. On ne sait pas mieux que Dieu. Il sait mieux que nous. Nous, nous sommes des brebis errantes. Et quand on commence à dire « je vais faire ci, je vais faire ça » et ce n'est pas dans la volonté de Dieu, eh bien, on est parti pour avoir des gros problèmes dans sa vie. Et après, on pleure à Dieu, on dit « Seigneur, regarde ce qui m'arrive ». Toute l'histoire d'Israël est comme ça. Hein. Israël est délivré par Dieu d'une façon extraordinaire. Ils marchent avec Dieu quelque temps et puis au bout d'un moment, ils en ont marre. Et ils laissent tomber le Seigneur, ils arrêtent de croire, ils vont vers des idoles, toutes sortes de choses. Et le Seigneur les livre à leur péché, il dit ben, « Tu ne veux pas me suivre ? Ben vas-y, va dans tes idoles. » Et là, ils ont des problèmes, ils ont des ennemis qui les attaquent, ils ont des plaies, ils ont toutes sortes de choses. Et là, ils pleurent et ils crient à Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque fois, Dieu les délivre. Franchement, moi, je me serais lassé depuis longtemps. Et heureusement que je ne suis pas Dieu. Dieu est un Dieu de patience, de fidélité, de grâce, de persévérance. Chaque fois qu'on crie, il nous délivre. Mais sa volonté, c'est qu'on marche avec lui. Pas qu'on tourne dans le désert bêtement, mais qu'on avance. Qu'on obéisse une bonne fois pour toutes. Et qu'on ne soit pas tout le temps des brebis qui n'en font qu'à leur tête. Le Seigneur veut des croyants qui l'aiment sincèrement. On l'aime maladroitement parfois. Parfois on chute, c'est vrai. Parfois on a des mauvais passages ou des mauvais moments. On est déprimé ou je ne sais pas. On perd pied parce qu'on est déstabilisé par des épreuves. Mais quand on aime le Seigneur, on revient à lui tout de suite. Parce qu'on dit, Seigneur, je ne peux pas m'éloigner. Ne me laisse pas m'égarer, hein, dit le psalmiste dans ce psaume tout le temps. Il répète ça. Ne me laisse pas m'égarer. Ça m'arrive de m'égarer. Mais ne me laisse pas m'égarer, je t'en supplie, Seigneur. Et ça peut être une prière aussi pour nous. Il y a tant de chrétiens égarés. Je pense en France, dans le monde aussi, des chrétiens qui ne marchent plus avec Dieu. Ils ont eu une expérience de foi, de conversion, et puis ils ont laissé tomber. Je prie pour eux continuellement qu'ils reviennent au Seigneur et que ce ne soit pas notre cas, qu'on soit entier, rempli du Saint-Esprit. Le 8, la plénitude, soyons remplis du Saint-Esprit, remplis de Dieu, remplis de Christ, remplis de sa parole, remplis de louanges, remplis de foi, remplis d'amour. C'est ce que Dieu a prévu pour nous et son amour est infini. On ne peut jamais l'épuiser. Et combien c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme notre Dieu. Amen.